Shalom, assalam alaikum, bonjour, guten tag ou bon dias. Si j'écorche un peu la salutation en portugais, c'est pour dire que nous sommes là de bonne humeur pour nous accompagner mutuellement durant près de 90 minutes au Club de la Presse, émission que nous animons dans ce studio, mais sur laquelle vous êtes connectés avec nous, naturellement par le biais de Canal FM émettant ici à Lomé et ses environs, mais également sur les antennes des radios partenaires, Radio Lumière à Anéro ici, Radio La Paix, la Voix des Plateaux à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Sama FM à Baga, Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Courtoisie à Dapan. Et oui, nous couvrons tout le Togo et c'est pas fini. Nous sommes également audibles dans le monde entier, en Afrique, en Europe, dans les Amériques, en Asie, en Océanie, sur toutes les îles, grâce aux radios numériques Radio Le Bénin, Eben Radio, l'application Canal FM, et même vous regardez comment nous sommes jolis et beaux sur la chaîne YouTube. Et si vous nous écoutez, si vous nous regardez, c'est grâce aux techniciens Victor Gbe Koku Michel Tomega et Jérôme Kodjo Akucha. Aujourd'hui, de quoi parlons-nous? La symbolique de la journée du 20 novembre, qui est décrétée depuis 1954 comme journée de l'enfance. Nous sommes adultes aujourd'hui, mais nous fûmes enfants. Nous aurons une pensée à l'endroit des enfants. Et puis, le monde qui ne peut plus se passer de ce qu'on appelle intelligence artificielle. Oui, déjà que nous ne sommes pas humainement très intelligents, mais maintenant nous devons aller à l'intelligence artificielle. C'est quoi ce barbarisme? Nous avons découvert quelque chose que nous allons partager avec vous. Et puis, si je vous dis où se trouve le chef de l'État, Faure Gnassingbé, aujourd'hui, où est-ce que la première ministre était il y a quelques jours, peut-être que vous ne savez pas, nous vous ferons, nous vous les ferons suivre. Et puis, un petit tour d'élections, Argentine, Libéria, Madagascar, RDC et demain le Togo. Voilà le menu du Club de la Presse aujourd'hui. Et comme c'est une tradition, nous choisissons toujours de nous inspirer d'un grand penseur. Et aujourd'hui, c'est un proverbe grec qui dit « Ici s'arrête le monde, dit l'aveugle qui a touché le mur. » Je reprends ce proverbe grec qui dit que « Ici s'arrête le monde, dit l'aveugle qui a touché le mur. » Notre bienheureux aveugle ne sait pas qu'il y a autre chose derrière le mur, n'est-ce pas? Et sûrement que nous verrons bientôt avec l'intelligence artificielle s'il y a encore un mur qui peut nous séparer. Alors Jérôme Ribeiro, bonjour.
Bonjour.
Plaisir à t'accueillir dans ce studio. Tu es le président de Human Eye. C'est quoi déjà ce barbarisme, Jérôme?
C'est l'intelligence artificielle au service de l'humanité.
L'intelligence artificielle au service de l'humanité. Au fil de l'émission, tu nous diras s'il y a encore un mur dans ce monde d'aujourd'hui ou de demain. Les traditionnels au Club de la Presse, Harry Miao Tchanyao de Nouvelle Opinion, bonjour.
Bonjour, ça c'est bonjour aux fidèles auditrices, auditeurs de Canal FM. Bonne semaine de travail à toutes et à tous.
Uriel Kakpala Enyang de Mega Info, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour à tous ceux qui sont autour de ce plateau, bonjour à tous ceux qui nous écoutent de par le monde entier.
Alors, je n'ai pas la version papier de Mega Info, ou bien tu t'apprêtes à m'envoyer la version intelligence artificielle de ton journal?
Non, le journal n'est pas sorti aujourd'hui. Souvenez-vous, il est sorti deux fois la semaine dernière. Et c'était pour des dispositions
non, Uriel,
pratiques.
Quand on fait bien, il faut continuer à faire mieux. C'est pas parce que tu as paru deux fois la semaine passée que tu nous prives de ton journal cette semaine.
Non, on verra bien parce que c'est une question aussi de fonds d'exploitation et il faut considérer tout ça.
Merci beaucoup. Alors Didier Kwame Asogba, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM et bonjour aux aînés et à notre invité en studio.
Alors dis-nous là, tu arbores des lunettes noires, c'est pour nous séduire ou bien c'est pour cacher quelque chose?
Bah, c'est l'intelligence artificielle.
Merci beaucoup. Eh bien, premier sujet, nous sommes le 20 novembre et cette journée créée depuis 1954 par les Nations Unies, notamment l'UNICEF. C'est la journée mondiale de l'enfance. Et le thème choisi cette année 2023, c'est « Pour chaque enfant,
tous ses droits. Belle phrase, n'est-ce pas?
Ouais.
Pour chaque enfant, tous ses droits. Et pendant que nous sommes dans ce studio, nous qui fûmes enfants et nous qui sommes parents d'enfants, nous pensons à tous les enfants sans exclusive, qu'ils soient enfants du chef d'État, qu'ils soient enfants de grands capitaines, de magnats de l'économie, qu'ils soient enfants de parents les plus démunis, ou encore qu'ils soient enfants des villes ou des campagnes, qu'ils soient des enfants vivant dans des foyers unis, ou bien avec des parents séparés, ou encore dans des familles recomposées, qu'ils soient des enfants orphelins, qu'ils soient des enfants en situation de rue. Didier Komiassoba,
vous avez
le club de la presse, nous pensons à tous ces enfants sans exclusive.
Oui, nous pensons à tous ces enfants sans exclusive, parce que quand on est déjà enfant, on sait que c'est pas facile de l'être. C'est pas vraiment facile d'être enfant déjà. Et après, tous les cas que tu viens de citer maintenant, on peut peut-être dire que certains sont privilégiés et d'autres non. Bon, les enfants de chefs d'État, de capitaines d'industrie et autres, ils sont déjà nés avec des cuillères en or sous la dent.
C'est donc ce qu'on pense en tout cas.
Oui, ben généralement c'est le cas d'ailleurs. Et donc eux, ils vivent pas les mêmes situations que des enfants orphelins par exemple. Pour l'avoir été, je sais de quoi il s'agit. C'est pas la même chose que des enfants en situation de rue par exemple. On les croise tous les jours, on les regarde tous les jours, on discute avec, on les croise d'ailleurs au feu de signalisation partout à Lomé, on les voit à la plage, on les voit dans les encablures de la place de l'Indépendance, on les voit même tout près d'ici, hein, derrière l'ancienne gendarmerie ici. Donc les enfants, c'est très compliqué, mais il y a parmi ces enfants d'autres enfants qui méritent d'ailleurs l'assistance constante de l'humanité et de la société, notamment les enfants de rue, des enfants abandonnés aussi, faut pas les oublier, des enfants qu'on jette ici et là, que des maisons prennent. Et donc oui, nos solidarités avec ces enfants, mais nous appelons la société à ne jamais oublier ces enfants et à continuer à leur apporter de l'assistance, surtout que nous abordons les périodes de fin d'année où ces enfants ont le plus besoin.
Merci,
de la chaleur.
Kapala, est-ce que j'aurais oublié une catégorie d'enfants?
Justement, ce sont ces enfants dans les hôpitaux.
Les enfants malades.
Au niveau, pas tous les enfants malades. Un enfant malade dans un hôpital au Togo, aujourd'hui, c'est différent d'un enfant en situation à l'hôpital dans la bande de Gaza. Hier, j'ai suivi vraiment, c'est très déplorable, des enfants nés prématurés. On cherche à les cacher, on cherche à tout prix à les évacuer dans les hôpitaux sécurisés. Mais jusqu'ici, ça reste des cas compliqués qui meurent chaque jour. Voilà les types d'enfants vraiment auxquels on peut penser.
Mais nous sommes tous des ignorants dans ces enfants-là, qu'ils soient dans des familles de riches, de pauvres, qu'ils soient dans des familles unies, qu'ils soient dans des familles séparées, qu'ils soient des enfants orphelins, des enfants malades, sans soins ou bien situation, des enfants en situation de rue. Peut-être que c'est un futur Adebayo Chehi, peut-être que c'est un futur Fornia Singbe, c'est peut-être un futur Ari Miao Tchanyaou, c'est un futur peut-être Albert Einstein, pour dire Ari Miao Tchanyaou que ces enfants que nous voyons aujourd'hui sont peut-être le génie de l'humanité demain.
Oui, tout à fait. Je crois que les enfants, c'est la pépinière des grands cadres de demain. Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, ceux que vous avez appelés les présidents, les responsables d'associations, les patrons d'industrie, tous ceux dont vous avez parlé, ils sont passés par l'enfance. Et c'est pour cela que chaque pays, chaque famille, chacun doit faire le maximum de lui pour que ces enfants-là soient au maximum protégés. C'est en les protégeant, c'est en les orientant vers les études, en les assistant, en leur donnant tout ce dont ils ont besoin, qu'ils peuvent avoir la vie et pouvoir demain devenir ce que nous rêvons d'eux. Et malheureusement, vous en avez des enfants qui sont dans tous les pétrins de la vie. Tel que Iriel l'a dit aujourd'hui, il y a des enfants orphelins, il y a des gens qui malmènent, qui maltraitent les enfants. Et l'univers entier cherche à couvrir et à donner la protection à ces enfants-là. Justement, c'est pour cela qu'on a pris comme thème à chaque enfant tous ses droits. Mais il y a aussi quelque chose qui donne à réfléchir. Parfois, les droits des enfants sont tels que l'éducation parfois aussi rate, quand bien même on a la volonté d'orienter ces enfants et de leur donner tout le cachet qu'il faut pour qu'ils soient ce qu'on veut d'eux. Il y a certains de ces droits-là qui font que les enfants, par la part en droit, deviennent les patrons de leurs parents, alors que les parents devraient aussi être ceux-là qui doivent les orienter. Je ne veux pas ouvrir des exemples et dire que à ce niveau ou par rapport à ça, mais les enfants tels que nous les connaissons traditionnellement chez nous, il y a leurs droits qu'on respecte, mais au même moment il faut trouver des formes.
Merci. Ne serait-ce que pour aujourd'hui, pensons à cette phrase: pour chaque enfant tous ses droits. Et comme je le disais, les enfants d'aujourd'hui sont les génies de demain, mais il y a déjà une réalité dans nos familles, hein. Quand les parents achètent leur gros téléphone, ils passent des heures à lire la notice, mais souvent les enfants cachés dans le coin se moquent des parents. Un enfant qui n'a lu aucune notice, qui n'a peut-être pas fait de grandes études, il prend le téléphone de son papa, mais il peut le... comment on dit ?
Manier.
Il peut le manier très rapidement. Cela nous introduit à ce sujet du Nouvelle Opinion, la page 4. En prélude à la semaine de l'intelligence artificielle 2024 au Togo, le CONAP et CONIAN, entendez par là, le Conseil international pour l'intelligence artificielle, ont organisé une séance en deux volets d'imprégnation de la presse sur la thématique. Et puis hier, nous avons appris que la semaine de l'intelligence artificielle a été lancée pour se dérouler en mars 2024. Je sais que c'est dans les colonnes de Harry Miaou qu'il y a l'article, mais je ne dis pas qu'il n'est pas intelligent artificiellement, hein, mais j'ai plutôt cherché l'un des cerveaux de cette semaine à venir et je suis tombé sur notre ami Jérôme Ribeiro. Rebonjour.
Bonjour.
Félicitations pour cette initiative. Merci. Que toi-même et les tiens avaient prise pour cette imprégnation de quelques journalistes en semaine dernière. Je n'avais pas pu y participer, mais j'espère avoir ma séance de rattrapage.
Il y en aura, il y en aura.
Ce qui est dit est dit.
Ah, mais je le dis toujours et je maintiens.
Va être fait. Merci beaucoup. Eh bien, l'intelligence artificielle, en quelques mots et en français facile, qu'est-ce que c'est, Jérôme ?
Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle ? Ce n'est ni plus ni moins le moyen de simuler, de refaire le raisonnement d'une personne humaine. Comment ça se passe ? Ça se passe grâce à des algorithmes et de la donnée. Qu'est-ce que c'est un algorithme ? Un algorithme, c'est comme une recette de cuisine. On va suivre étape par étape, casser les œufs, faire cuire les oignons, etc., pour arriver à un plat spécifique. Imaginez un tableur Excel, on vous dit la colonne 3, donc la donnée qu'il y aura à l'intérieur, c'est égal à la colonne 1, la donnée qu'il y a à l'intérieur, plus la colonne 2. C'est un algorithme qui se sert de la donnée à l'intérieur des colonnes pour avoir un résultat. L'intelligence artificielle simule tout simplement le raisonnement humain. L'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle utilise de la donnée. 90% de ce qui a été digitalisé dans le monde s'est fait depuis le Covid. Donc vous imaginez l'accès aux données que nous avons aujourd'hui. En plus de ça, pourquoi on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui ? La puissance de calcul des ordinateurs. On peut imaginer, pour apprendre un métier, pour lire un livre, vous mettez entre 3 et 7 heures, selon la taille du livre, selon l'écriture, etc. Un ordinateur, il peut lire 1 million de livres à la seconde. Mmh. Donc vous, il retient 100%. Nous, si on retient 3 à 5%, voire 7% du livre, on est les champions du monde. Lui, il retiendra 100%. Il pourra prendre les informations qui sont à l'intérieur, les traiter, les analyser et vous donner un résultat. Donc vous imaginez la puissance de l'intelligence artificielle. Mmh. En revanche, c'est toujours l'homme, avec un grand H, qui programme l'intelligence artificielle, qui dit, voilà, le calcul, c'est ça, tu dois faire.
Alors,
ça,
avec ça. Jérôme, comment se fait-il que c'est nous, les humains, c'est nous qui produisons, c'est nous qui montons, c'est nous qui programmons les ordinateurs, et ces foutus appareils se révèlent beaucoup plus intelligents que nous?
Alors, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Ils analysent la donnée et des métadonnées beaucoup plus rapidement que nous. Mais l'humain reste toujours plus intelligent. Il a le moyen d'appuyer sur un bouton pour éteindre la machine. Mm-hmm. Donc l'humain reste indispensable.
Donc l'homme ou la femme, l'humain reste toujours le maître de la machine.
Absolument.
Merci. Alors maintenant, quels sont les avantages que nous procure cette intelligence artificielle?
Alors, l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est capable d'être dans tous les domaines d'activité. Imaginez la santé. On veut livrer des médicaments dans une zone reculée, montagneuse, etc.
Chakoua, par exemple, chez Tchanyaou.
Absolument.
Il y a la route à Koué, ouais.
On peut envoyer un drone autonome grâce à l'intelligence artificielle qui va aller d'un point A à un point B. Ce qu'on mettrait 1h15 en route, il mettra 10 minutes. Quelqu'un qui se fait mordre par un serpent, on lui amène le vaccin en moins de 10 minutes. Mm-hmm. Donc ça, c'est intéressant. Imaginez dans l'agriculture. L'agriculture, une plante, c'est un être vivant comme vous et moi. Lorsqu'on ne boit pas assez, on est en stress hydrique. Lorsqu'on boit trop, on est inondé. Qu'est-ce qui se passe? On fait de l'arrosage automatique sans savoir les besoins en eau de la plante. Nous, on fait voler des drones et on regarde les besoins spécifiques en eau de la plante et on ne donne que l'eau dont elle a besoin. On fait 90% d'économie d'eau. On regarde la maturité des fruits. Que font les agriculteurs? Ils passent tous les jours pour voir la maturité des fruits. Là, c'est un drone qui le fait automatiquement pour optimiser la récolte. On gagne jusqu'à 50% de ceux qui tombent de l'arbre. Jusqu'à 50% de ceux qui tombent de l'arbre. Donc, on augmente les profits. Imaginez aussi, demain, on cartographie les sols. Et vous savez qu'une plante, en fonction du terroir, de la qualité de terre, s'épanouit plus ou moins. Si on adapte chaque culture à chaque terre bien spécifiquement, on augmente la production jusqu'à 2,5 fois à l'hectare. Donc le profit pour l'agriculteur. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle. En fait, on optimise grâce à la donnée. On peut faire des prédictions grâce à toutes les données qu'il peut faire simultanément. Puisque la puissance de calcul peut gérer des métadonnées. Et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est les cas pratiques. On parle beaucoup de la voiture autonome, etc. Lorsque vous êtes fatigué, c'est intéressant d'avoir une voiture autonome qui va vous amener d'un point A à un point B. Ça respecte le code de la route. On voit les gens brûler le feu rouge souvent, quel que soit le pays. Là, on sait qu'il y aurait beaucoup moins d'accidents. Donc vraiment, l'intelligence artificielle est de partout dans l'éducation. On adapte l'éducation à chacun. On est tous différents. On a tous des méthodologies d'apprentissage différentes. Il y en a, ils retiennent mieux quand ils lisent. Il y en a quand ils écrivent. Il y en a quand ils reproduisent, qui font comme une scène de théâtre.
Et il y en a comme moi, pour bien comprendre, il faut que je regarde mon interlocuteur dans les yeux, voire même que je le touche.
ça fait plaisir.
Alors Jérôme, tout ce que tu dis là, c'est vraiment intéressant. Ah ben, dis-nous, est-ce que cette intelligence artificielle, avec toutes ces applications, est-ce que c'est déjà une réalité dans notre pays comme le Togo?
C'est une réalité dans tous les pays du monde. Google utilise de l'intelligence artificielle. Lorsqu'on fait une recherche, c'est de l'intelligence artificielle qui va faire la recherche. C'est comme s'il y avait plein d'hommes derrière qui allaient chercher les informations à la bibliothèque. Ben, c'est de l'IA qui cherche les informations là où elles sont. Ensuite, quand vous utilisez vos smartphones, ce n'est que de l'intelligence artificielle. Donc derrière, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est de l'intelligence artificielle. Quand vous utilisez Google Maps ou autre pour vous rendre d'un point A à un point B, c'est de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait partie de notre vie quotidienne. Donc soit on prend le train en marche pour la comprendre. On n'est pas obligé d'être un super technicien de l'intelligence artificielle. Ne serait-ce que de comprendre la technologie. On peut imaginer demain des applications et aller voir les gens qui savent développer, comme le docteur Malik Maurice Mouzou, le seul docteur en intelligence artificielle du Togo, qui est allé passer son doctorat en Chine. Donc vous imaginez, parler mandarin, on met 7 ans d'habitude, il a mis 3 ans, et il a passé son doctorat en Chine. Donc vous avez la chance d'avoir un grand talent qui est reconnu par le Conseil international scientifique de l'intelligence artificielle, qui est au Togo, qui peut développer des applications pour les chefs d'entreprise. Je vais vous dire aujourd'hui les rapports, les constats, c'est que quand vous implémentez du digital et de l'intelligence entreprise dans vos entreprises, vous le rentabilisez en 1 an et vous multipliez vos profits par 3,5. Qui fait ça aujourd'hui, si ce n'est que l'intelligence artificielle?
Merci, vous le disiez, docteur Malik Maurice Mouzou, qui a une petite fierté nationale, et là encore je suis humble avec lui. Et il a été honoré hier, vous lui avez décerné le prix d'engagement à la démocratisation et l'adoption de l'intelligence artificielle sur le continent africain. C'est quoi cette distinction dont il a été honoré hier?
Alors il faut savoir que le docteur Malik Maurice Mouzou fait beaucoup pour son pays.
il veut développer et démocratiser et faire en sorte que chaque Togolais puisse demain faire partie de cette révolution industrielle. C'est une révolution industrielle qui touche tous les domaines d'activité. L'avantage de cette révolution industrielle de l'intelligence artificielle, c'est qu'avec un simple ordinateur, on peut faire tourner un algorithme. On n'a pas besoin, vous vous rappelez qu'Internet est arrivé, il fallait creuser ou alors mettre des câbles de partout. Là, les ordinateurs existent déjà et vous pouvez faire tourner un algorithme. Pourquoi il a reçu ce prix? Parce qu'il fait beaucoup pour son pays. Il rayonne à l'international. On va bientôt à Abidjan ensemble. Il va recevoir encore un prix de l'Afrique par ses pairs. Et les conseils du comité scientifique les plus grands de la planète, avec des universités de renom, lui ont décerné ce prix parce qu'il transmet, parce qu'il explique, parce qu'il démocratise et parce qu'il fait des actions concrètes dans son pays, pour son pays, pour les Togolais. Et surtout, ce qu'il veut faire, c'est par les Togolais. Que les Togolais prennent part à cette révolution en ayant les formations, en ayant les outils pour réussir. Qui le fait? Donc, il faut remercier le docteur Malik Maurice Mouzou. C'est un homme exceptionnel, qui a beaucoup d'humilité et qui fait tout pour donner la possibilité à son pays de pouvoir être formé, de pouvoir faire des programmes pour trouver des solutions dans la santé, dans l'agriculture, dans l'éducation, dans toutes les priorités premières du pays.
Alors justement, est-ce que Dr Mouzou comment est-ce qu'il travaille concrètement pour que de nouveaux génies émergent, hein, pour le compléter, pour que nous ayons un réseau de docteurs en intelligence artificielle pour que cela puisse nous embraser et nous embrasser tous?
Alors déjà, il faut faire un événement autour de tout ça. On a fait un premier événement, c'était la formation des patrons de presse et des journalistes. Pourquoi? Parce que vous devez informer, collecter l'information, l'analyser, la vérifier et la transmettre pour élever le débat comme on le fait aujourd'hui. Mm-hmm. Et c'est un beau métier, journaliste. Donc nous devions vous donner les clés de l'interprétation de l'intelligence artificielle pour en parler avec autorité et pertinence. Et là où je suis content, c'est que les journalistes que j'ai formés sont sortis, d'ailleurs Jean est là pour nous le prouver, sont sortis en ayant une compréhension de l'intelligence artificielle. On ne fait pas des développeurs d'algorithmes, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de comprendre cette technologie parce que vous avez le devoir, vous, la presse, de faire savoir, de faire en sorte d'aider votre pays à s'élever, à dire à tous les jeunes, vous avez la possibilité, c'est la journée de la jeunesse, hein. C'est l'avenir, la jeunesse. Les enfants, c'est l'avenir. Si on leur donne les clés de la réussite avec les formations, les outils, dès le départ, ils choisiront à leur âme et conscience ce qu'ils veulent faire de leur vie.
Alors justement, nous en venons maintenant à cette semaine de l'intelligence artificielle qui est programmée pour se tenir dans 4 mois, je crois, courant mars 2024.
Tout à fait. Donc nous allons la faire courant mars. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons acculturer, démystifier, sensibiliser sur les enjeux de l'intelligence artificielle, sur les opportunités qu'offre à la jeunesse, à tous les Togolais, cette technologie. Donc il y aura beaucoup de démonstrations, nous allons faire de la recherche de talents, il y aura du networking, il y aura du réseautage, il y aura des grands experts internationaux qui seront là, puisque le docteur Malik Maurice Mouzou fait partie du comité scientifique international de l'intelligence artificielle aux côtés des plus grands, ils viendront transmettre, expliquer avec des mots simples. La pédagogie. Tout à l'heure, on discutait. Mm-hmm. Nous parlons comme si un enfant comprenait. Parce que je suis un enfant et je resterai toute ma vie un enfant. Et lorsque je vois un expert en face de moi qui dit des mots, on va dire, c'est un expert, mais on n'aura rien compris. Par contre, si, après cette radio, on aura le plaisir d'avoir compris ce qu'est l'intelligence artificielle et l'opportunité qu'on peut avoir, ben demain, ce sera la semaine de l'intelligence artificielle où il y aura des cas concrets. Il y aura des cas pratiques, il y aura des ateliers pour comprendre. On va faire un hackathon en parallèle. Dire aux jeunes, voilà, venez, on va faire des équipes multidisciplinaires, comme si c'était des entreprises. On va aller sur les objectifs de priorité de première du pays, du Togo, sur les objectifs de développement durable, sur les objectifs de l'IA au service de l'humanité, tels que la santé, etc. On va leur donner des idées. À vous de faire émerger votre talent. Et nous, on sera là pour vous accompagner.
Et justement, qui est concrètement attendu à cette semaine?
Alors, à cette semaine, je ne vais pas encore donner les noms, puisqu'on l'a lancé.
Enfin, les groupes cibles, quoi.
Oui, alors des groupes, on a Atos, déjà, un grand groupe international qui œuvre, qui a manifesté, qui serait là à nos côtés. On a les grands groupes qui seront là. Il y a bien sûr Human AI qui sera là avec tous ses experts, etc. Donc, dès qu'on aura finalisé les partenariats par écrit, je donnerai les noms, mais on aura le professeur Saïda Belouali, qui est professeur d'éthique appliquée à l'intelligence artificielle, qui travaille à l'UNESCO, qui travaille à l'université Mohamed Ier, qui est reconnu mondialement aujourd'hui. Donc, parce que l'éthique, c'est la place de l'humain. C'est la justice sociale. Il faut que dans cette intelligence artificielle, aucun individu ne soit oublié. On parlait des enfants, on parle des adultes, on parle des personnes âgées, on parle des femmes, on parle des hommes. Maintenant, aux États-Unis, ils parlent de genre. On n'en est pas encore là, mais...
Nous en sommes encore à hommes et femmes.
Voilà, on va rester sur ce sujet-là. Mais les malentendants, les aveugles, etc. On a fait un hackathon au Maroc. On a des jeunes dont son oncle était aveugle. Ils ont fait des lunettes avec une caméra qui détecte le danger et qui émet des sons comme les chauves-souris. Et la personne peut se déplacer plus aisément.
Merci. Alors, le groupe cible ici du Togo qui pourront participer.
Mais ce que nous voulons faire, c'est que le Togo est placé aujourd'hui à la 23e position durant Oxford Insight 2023 sur les pays qui sont prêts à l'adoption de l'intelligence artificielle.
23e, c'est au plan
En Afrique. Donc, 145e mondial, c'est trop. Notre but, c'est de le placer dans les 5 premiers d'Afrique et de devenir un leader mondial et de faire en sorte que demain, c'est l'Afrique et le monde qui viendra au Togo pour son expertise. Et ce que nous voulons faire, c'est donner la possibilité aux Togolais, puisqu'on parle beaucoup de fuite de cerveau dans les autres pays. Ce qu'on veut faire
ici aussi.
Ici aussi, de partout. Vous formez des gens, ça vous coûte de l'argent et les talents, ils partent. Combien on garde d'ingénieurs ici dans son pays ? Et donc l'idée, c'est de dire, ben nous, on va vous donner les moyens pour rester dans votre pays et pour vendre le monde entier. Nous avons créé Human AI Service, qui est une plateforme, comme le Uber du service, où on vous vend dans le monde entier, avec votre savoir-faire local.
Merci, merci. Donc, Jérôme Ribeiro, il est de Human AI. Il est venu nous parler en termes simples de l'intelligence artificielle, ses applications, ses avantages, les opportunités que cela offre déjà au monde et à notre pays demain. Et puis, on a continué avec la semaine de l'intelligence artificielle qui aura lieu en mars. Et au fur et à mesure qu'on va s'approcher, les organisateurs vont en parler amplement. Nous, au Club de la Presse, comme nous aimons jouer aux avant-gardistes, nous vous en parlons pour que nous sachions qu'il y a ceci, qu'il y a une réalité dans le pays et que chacun se prépare pour cette semaine de l'intelligence artificielle que je présume que Didier ne voudra pas rater.
Même pas, il n'y a pas... Enfin, il ne nous est pas permis de rater parce que c'est l'événement. J'ai eu la chance d'avoir toute une... quatre heures de cours avec un professeur français déjà il y a à peu près un an et demi dans le cadre de ma formation de master sur le sujet de l'intelligence artificielle en lien avec les recherches académiques et notamment les sciences de l'information et de la communication, comment on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour faire du journalisme, pour faire de la communication. Donc un sujet qui passionne et qui fascine d'ailleurs. Donc pour nous aujourd'hui, il n'est pas question de passer à côté de la plaque. C'est des sujets comme ça. C'est des sujets intrinsèquement liés à notre métier aujourd'hui. Et donc nous sommes appelés à nous adapter au fur et à mesure et à même nous approprier à l'intelligence artificielle, pourquoi pas. Puisqu'on a la chance d'avoir notre Jérôme ici, pourquoi ne pas saisir la chance avec l'Human AI déjà pour optimiser nos façons de travailler, faire développer nos entreprises de presse, pour optimiser notre façon de travailler, mais encore plus toucher davantage de Togolais, de lecteurs, d'auditeurs et tout ce beau monde.
Merci. Uré Kapala, notre pays, nous sommes un petit rectangle de 56 000 km², 8 millions d'habitants pour le moment, n'ont pas de grandes ressources naturelles, mais le gouvernement nourrit l'ambition aussi bien dans le PND que dans la feuille de route gouvernementale. Et l'un des trois axes majeurs, c'est que le Togo devienne une hub, aussi bien pour les transports, les services, mais également l'intelligence artificielle peut être pour nous une opportunité.
J'ai eu la chance d'être formé aussi. J'étais là au deuxième jour avec Monsieur Jérôme et tous les autres journalistes. J'ai été formé aussi, j'ai eu beaucoup de notions sur l'intelligence artificielle. Je pense bien que c'est du beau boulot et je réitère mes félicitations à ce Togo qui a émergé et qui a pris des initiatives pouvant permettre à inculquer ses connaissances aux journalistes afin qu'ils contribuent énormément à sensibiliser les Togolais dans leur ensemble. D'ici bien, c'est encore un plus, ce n'est pas l'étendue du pays qui fait de la connaissance aujourd'hui.
Mais tu as raison, Singapour, c'est 4 km carrés, et pourtant c'est une référence mondiale.
Tout à fait, Israël c'est la moitié du Togo, mais aujourd'hui c'est une puissance sur tous les plans. Si le Togo arrive à devenir un monde entier, reviennent vers le Togo pour acquérir des connaissances d'intelligence artificielle, je pense que ça sera la matière, ça sera vraiment à louer. Là, donc, il faudrait que les facteurs indispensables au développement de l'intelligence artificielle soient disponibles. Je pense que Jérôme va nous dire un peu, il va nous énumérer un peu ces facteurs-là. Est-ce qu'on n'a pas des facteurs indispensable pour le développement de l'intelligence artificielle? Quels sont les éléments dont on a besoin pour que l'intelligence artificielle soit réellement une
Merci.
Réalité?
Jérôme va noter tes préoccupations. Je dis encore, je suis d'accord avec toi, c'est pas la taille d'un pays qui fait de lui une puissance. Oui. J'ai cité Singapour, on peut même citer Hong Kong, Monaco, qui ne sont que des rochers, sont des références quand même mondiales. Et comme quelqu'un dit, même si le pays n'a pas telle richesse, le pays se doit d'avoir des idées et le Togo se doit d'avoir des idées. Ari Miaou.
Oui, absolument, oui. Moi également, j'ai suivi la formation. Il y a Jérôme, le premier jour, j'étais là. Et on parlait de l'intelligence artificielle, on se fait des idées. On s'imagine, on voit du brouillard, on ne sait pas ce que c'est.
Devant même s'imagine de la magie.
Voilà, et ça effrayait. D'autres se disaient que ça va venir créer d'autres ennuis au monde. Mais la dernière fois, avec la fois que nous avons eu avec M. Jérôme, nous avons été édifiés. Ça nous a permis d'avoir une idée de ce que c'est réellement que l'intelligence artificielle. Ça nous a permis également de voir l'apport que l'intelligence artificielle peut apporter, peut amener d'un état et contribuer au développement dans tous les sens. Et tout ce qu'on peut dire, le Togo, moi j'ai été très fier la dernière fois quand on m'a dit qu'au classement africain, le Togo occupait le 23e rang. Et je disais, je me disais à dire à Jérôme, jusqu'à l'année prochaine, le Togo pourra pourquoi pas être premier ou cinquième. Et avec la semaine de l'intelligence artificielle qui s'annonce pour le mois de mars, je me dis que tous ces experts qui vont venir de tous les coins du monde, tous ces experts qui viendront de l'Afrique, ça reviendra au Togo. Et le Togo, nous le connaissons très bien, est un pays de référence où de grandes décisions, de grandes idées naissent et prennent corps. Et je me dis que avec le docteur Mouzou, qui est togolais et qui est ici et qui a fait honneur à tout le Togo hier avec le prix qu'il a reçu, nos jeunes, qu'ils soient en formation au niveau de l'informatique, de la mathématique, tous ces étudiants-là qui auraient envie de se lancer dans ce domaine pourront bénéficier d'avec la semaine qui s'annonce. Mais déjà, nous appelons tous les entrepreneurs, toutes les structures de notre pays, que ce soit au port, l'aéroport, les centres de santé,
les médias surtout.
Les médias, l'administration a commencé par y penser avant que la semaine de l'intelligence africaine qui s'annonce puisse arriver, parce que nous tous, nous en avons besoin. L'intelligence artificielle telle que nous l'avons apprise la dernière fois avec Jérôme, c'est l'avenir du monde de demain.
Merci, c'est l'avenir de demain. Le Togo se doit de ne pas rater ce rendez-vous. C'est to be or not to be. Alors Jérôme, devant tout cet optimisme, il y a quand même la préoccupation de notre ami à ta droite, Kakbala, qui s'interrogeait si le Togo... Kakbala, tu rappelles toi-même tes idées.
Oui, je demandais s'il n'existe pas des facteurs pouvant favoriser le développement de l'intelligence artificielle.
Le plus gros facteur, c'est la volonté. Avec la volonté, on peut faire ce que l'on veut. Déjà, ça c'est la première des choses. Pourquoi ? Parce que nous apportons tous les outils. Nous formons des formateurs déjà pour vulgariser. Parce que c'est important de vulgariser. Et comme le dit vos amis journalistes, je suis très heureux de cette formation, ils ont compris ce qu'était l'intelligence artificielle. Ils ont une idée. Si on forme, on sensibilise, on acculture, on démystifie ce qu'est l'intelligence artificielle, tout le monde va vous prendre part à la technologie. Et je vous remercie d'avoir évoqué ce sujet. Vous avez compris à quoi ça pouvait servir. C'est ça. Un chef d'entreprise, de suite, il va se dire, ah ben, ça va me servir à ça. Support, de suite, le directeur va savoir à quoi ça va lui servir. Optimiser où va aller tel conteneur, le suivre, parce qu'on va mettre des capteurs, etc., pour les retrouver, toutes ces choses-là. Optimiser la gestion du port, la gestion de l'énergie. On peut tout faire. Mais il faut sensibiliser, c'est un gros prérequis. Après, nous apportons les diplômes Master 1, Master 2 et diplôme d'ingénieur en IA, où nous allons former les professeurs à transmettre ces métiers. Nous allons les accompagner pendant 3 à 5 ans. En fait, ce que l'on veut, c'est que le Togo soit indépendant et demain leader dans l'intelligence artificielle.
C'est très joli, Jérôme, mais une préoccupation qui nous arrive. Un auditeur voudrait savoir si l'intelligence artificielle ne sera pas cause de chômage. Autrement dit, est-ce que les ordinateurs ne vont pas prendre le travail des hommes? Et un travail que font 100 et 100 femmes, c'est une machine qui le fait aujourd'hui en un temps record. Et la conséquence sociale, c'est qu'il y aura des pics de chômage dans nos pays.
Alors, ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une ère numérique qui n'a rien à voir avec toutes les révolutions industrielles que nous avons connues. Vous imaginez, quand les cochers sur leur calèche voyaient une voiture arriver, la peur. Qu'est-ce que c'est? C'est le démon? C'est un sorcier? Qu'est-ce que c'est cette machine? Qui a peur de la voiture aujourd'hui? Il a fallu passer le code de la route et le permis. Aujourd'hui, la voiture est devenue un outil.
Et on nous annonce même des voitures volantes, quelque part en Chine.
Pour les Jeux Olympiques, d'ailleurs, en 2024 à Paris, il y aura des voitures volantes, des taxis volants. Alors, bien sûr que l'IA va remplacer certains métiers qui étaient des tâches répétitives, pas trop valorisantes pour l'humain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un changement de paradigme complètement. Je suis en train d'écrire un livre où j'explique que ce n'est plus une révolution industrielle, c'est une révolution de l'humanité. Où quand nos parents faisaient carrément le même métier, nous demain c'est fini. Regardez la presse, il y a 30 ans vous n'utilisiez pas les ordinateurs, aujourd'hui vous utilisez le smartphone, le web, le numérique, vous utilisez tous les outils. Donc il faut s'adapter. Mais pour cela, il faut donner les moyens de former l'humain à ces outils-là, c'est ce avec quoi nous arrivons. Donc là, demain, vous aurez tous les moyens, tous les outils, ça dépendra de vous. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Vous voulez prendre part à cette révolution avec une richesse beaucoup plus importante, parce que demain, on va pouvoir vous vendre votre savoir-faire local en Chine, à Singapour, à Paris, à New York, de partout.
Merci. Alors, la pensée du jour que nous avons prise au début, ici s'arrête le monde. L'aveugle qui a touché le mur. Alors Jérôme, avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y aura encore des murs dans le monde?
Alors ce qui est intéressant quand le web est arrivé, c'est que le savoir n'était plus détenu dans les livres. Il était accessible grâce à un smartphone 24 heures sur 24 dans le monde entier, donc grâce à un ordinateur. L'avantage qu'offre l'intelligence artificielle, c'est qu'elle peut traiter la donnée 24 heures sur 24 et tout ce qui a été digitalisé et tout ce qui aura encore à digitaliser, c'est du savoir. Donc, l'IA peut former et adapter la formation à chacun et montrer, élever les esprits. Un aveugle, si on le monte, il verra qu'il n'y a plus de mur, puisque le mur est devant lui. S'il se tourne, ça dépend de la direction qu'il veut prendre. Le mur, on le voit quand on a envie de le voir. Mais qu'est-ce qu'on veut? Moi, pour moi, il n'y a aucun mur. En plus, je suis rugbyman. Même s'il y en a un, je veux le défoncer. Parce que c'est ma philosophie. Notre philosophie, c'est avancer, s'élever, comprendre pour agir. Et nous donnons les moyens, avec l'intelligence artificielle, de se former aussi à votre façon d'apprendre. On va apprendre jusqu'à 27 fois plus vite quand on adapte l'éducation à l'individu.
Merci. Déjà, il n'y a pas de mur entre nous au studio et vous qui nous écoutez un peu partout au Togo, en Afrique, dans le monde. Peut-être que depuis là où il est, Foreign Asingbe, où les gens de sa suite nous suivent actuellement, lequel Foreign Asingbe participe au sommet G20 Compact with Africa. C'est à Berlin ou bien Berlin pour faire francophone en Allemagne. C'est un sommet que l'Allemagne organise, notamment le chancelier Olaf Scholz. Et il y a des opérateurs économiques, des investisseurs allemands, mais il y a également des représentations hein, du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Alors, les chefs d'État africains qui y sont invités, c'est ceux des pays africains réformateurs. Peut-être que dans ces réformes, il y a également l'intelligence artificielle. Ça, c'est pour le chef de l'État. Il y a quelques... justement avec l'Allemagne, la semaine dernière, il y a eu une convention entre l'Allemagne et le Togo d'un montant de 13 milliards de francs CFA au profit de 69 communes des régions des plateaux centrales et de la Cara sur la période 2024-2028. Pendant que la chef du gouvernement était à Bissau il y a quelques jours, c'était pour sympathiser, s'associer avec les Bissau guinéens qui célébraient un double événement. D'abord, le 50e anniversaire de l'accession de leur pays à l'indépendance, indépendance acquise le 4 septembre 1973, et puis la foulée, la création des forces armées nationales le 16 novembre 1973, la Guinée-Bissau qui a pour chef d'État Oumaro Sissoko Embalo. Voilà la coopération Kakbala. Fania Simbe qui assiste à ce sommet en Allemagne. La première ministre qui allait s'associer à la joie de nos frères africains de Guinée-Bissau, pendant que la coopération entre le Togo et l'Allemagne est toujours agissante au profit des collectivités territoriales. Ari Niaou ?
Non, bah, il faut dire que l'Allemagne a toujours été présente au Togo à tous les niveaux. Vous savez que le Togo fut une ancienne colonie de l'Allemagne et le Togo comme tel est toujours dans les grâces, excusez-moi l'expression, de l'Allemagne. Vous avez vu que quand
nous sommes en politique après tout, hein, ouais, il y a les sentiments, mais il y a la réalité politique.
Oui, mais l'Allemagne fait beaucoup pour le Togo.
Oui, ça n'a pas empêché qu'il y a quelques années, l'Allemagne avait suspendu la coopération avec notre pays pour des considérations politiques.
Et le Togo a rebondi
en
corrigeant les tirs. Et c'est pour cela que l'Allemagne est à nos côtés tous les jours. Le chef de l'État a bien fait d'être présent à cette rencontre internationale. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que derrière tout ce qui va se faire en Allemagne par rapport à cette rencontre, c'est qu'il faut que les retombées réjaillissent davantage. Vous avez vu que vous parlez de 13 milliards que l'Allemagne a accordé à trois communes. Ça veut dire que...
69 communes.
69 communes.
De trois régions.
De trois régions, justement. Donc ça veut dire que avec la présence du chef de l'État, le premier de tous les Togolais, il va avoir d'autres choses que l'Allemagne va accorder au Togo. Maintenant, s'agissant de la Guinée-Bissau, où le premier ministre était, la Guinée-Bissau, 50 ans d'anniversaire et
50 ans également de la création
des forces armées nationales. C'est vraiment un double événement et le Togo marque sa solidarité avec la Guinée-Bissau. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, le Togo et la Guinée, d'ailleurs le Togo avec beaucoup de pays de la sous-région, ont ces accords et qui marquent la solidarité et l'entente et qui font la symbiose. Et je crois que la PME également a été marquer la présence du Togo à cette rencontre. Et vivement que la coopération entre les pays de la sous-région et sud-sud la puisse continuer.
Et déjà, on constate qu'avec l'intelligence artificielle appliquée aux médias, on peut suivre pratiquement directement le sommet G20 Compact de Africa en Allemagne. Progressivement, on va y arriver. Et maintenant, Didier Sobal, nous entamons un petit tour du monde des élections. L'actualité, nous la commençons avec l'Argentine, où on a noté hier la victoire écrasante au second tour de l'élection présidentielle de Javier Milei, qui est présenté comme un partisan de l'économie ultra-libérale. D'autres le présentent comme un anti-système sans aucune expérience de gouvernance d'État. C'est lui qui vient de triompher haut la main de son vis-à-vis, Sergio Massa, qui est ministre de l'économie et candidat du pouvoir sortant. Celui-ci, avant même qu'on ait fini le dépouillement, le challenger Sergio Massa a reconnu sa défaite et il a félicité le nouveau président élu d'Argentine, Javier Milei. Nous passons ensuite au Libéria, avec la victoire, cette fois-ci très serrée, du candidat de l'opposition, Joseph Boakai, hein, au détriment du président sortant, Georges Oppong-Weah. Et celui-ci aussi, avant même que la structure, l'organe qui organise les élections, n'ait proclamé les résultats finaux, le président sortant, Weah, a reconnu sa défaite. Il a appelé le nouveau président élu, l'a félicité, et Georges Weah a appelé ses propres partisans au calme et leur a demandé de se préparer pour la prochaine échéance électorale en 2029. Nous continuons et nous allons à Madagascar, qui a connu le 16 novembre dernier le premier tour d'élection présidentielle. Alors, il y avait 16 candidats, mais 10 candidats avaient choisi de boycotter, de ne pas participer aux élections, et seuls 3 candidats, dont le président sortant, André Rajoelina, ont participé à l'élection. On attend les résultats de cette élection pendant que la polémique gonfle autour du taux de participation. Pour les candidats de l'opposition, le taux de participation doit être très bas, quitte à invalider l'élection, alors que dans les rangs des 3 candidats qui ont participé, dont le président sortant, en avant toutes. Et nous continuons avec la RDC. L'élection présidentielle dans ce pays continent, au cœur de l'Afrique, aura lieu le 20 décembre. Ce sera une élection présidentielle à un tour. Le Togo était à ce niveau-là, mais par nos réformes, nous avons dépassé un seul tour. Maintenant, nous en sommes à 2. À cette élection, on a enregistré 26 candidats qui sont en liste, dont le sortant Félix-Antoine Tshisekedi, qui a démarré sa campagne hier. Alors, au Togo, nous sommes toujours en attente des élections régionales et législatives, et le seul élément que nous avons, c'est cette mission de la mission cette mission de l'OIF qui a séjourné avec nous, enfin chez nous au Togo, et qui a donné les résultats de son expertise et qui a dit que le fichier électoral au Togo est fiable, même si de l'autre côté il y a polémique, des partis de l'opposition comme la DMP de Mme Brigitte Kafia-Djamagbo disent qu'ils ne sont pas d'accord avec cela parce que n'ayant été associé à rien, même son de cloche dans les rangs de l'ANC. Dizia Sogba, surtout le tour du monde, tu choisis le pays qui t'intéresse le mieux.
Trop vaste.
Il parlera du Togo.
Tu parleras
de
Ari Miyaou voudrait bien que je parle du Togo, mais bon, je vais me dépasser un peu de l'autogolaiserie parce que les uns et les autres ne seront certainement pas d'accord avec ce que tu vas dire.
Tu crains quoi?
Est-ce que, bon, par les temps qui courent, vaut mieux parler plutôt du Libéria. Je préfère parler du Libéria où, moi d'abord, c'est une grande leçon que nous venons d'avoir. Et une grande leçon, et après, qui nous donne une fierté en Afrique. Vous voyez, sur beaucoup de plateformes panafricaines, que vous lisez depuis quelques jours, c'est cette fierté des Africains de lire que et de comprendre que le président sortant Georges Weah, qui tu as parlé du score très serré entre lui et le candidat de l'opposition, et lui qui est en train de finir son premier mandat, qui n'est même pas encore à deuxième mandat pour prétendre à d'autres, et qui reconnaît de son propre chef d'avoir perdu des élections avec quelques voix, quelques milliers de voix.
On annonce la différence dans ce site autour de 28 000 voix.
Autour de 28 000 voix seulement. Mais Georges Weah n'a pas créé un Haut-Togoué. Vous connaissez cette histoire de Haut-Togoué. Il ne s'est pas réservé un Haut-Togoué pour rattraper rapidement ce retard-là sur le candidat de l'opposition. Avec son esprit sportif, vous savez, il est le seul ballon d'or France Football du continent africain jusqu'à ce jour, et son fair play sportif a été transposé dans la compétition électorale, et il a reconnu cette défaite là de façon sans contrainte. Je présume que des gens lui ont certainement proposé des choses, et qu'il n'a pas accepté. Il a même appelé ses partisans, comme tu l'as dit tout à l'heure, à accepter le verdict des urnes et à se préparer comme un bon footballeur. Quand tu perds un match, tu te prépares pour le match suivant en vue de le gagner. Et il a lancé cet appel-là. Et du coup, de cœur, vous savez, quand vous lisez, vous suivez les chaînes internationales, des gens prédisaient le pire à l'issue de cette élection-là, avec la reprise certainement de la guerre civile qui avait déjà très endeuillé ce pays-là. Et des gens pensaient qu'on pourrait faire rebelote et retourner dans ce passé sombre du pays. Non, là, George Weah a dû déjouer tous les pronostics. Et aujourd'hui, on voit que au lieu de la peur et de la guerre civile qui doit reprendre au niveau du Libéria, c'est plutôt le calme, c'est plutôt la joie, c'est plutôt la célébration. Chapeau bas à l'artiste, comme on peut dire.
Alors Kapala, voilà, généralement, c'est un estime qu'en Afrique, un président sortant ne peut pas organiser une élection et la perdre. Nous venons de le vivre au Libéria. Hein, non seulement George Weah n'a rien fait pour mettre l'organe d'organisation des élections à sa botte, il a laissé toute la liberté à l'organe qui a organisé les élections. Et avant même que les résultats finaux ne soient donnés par l'équivalent de leur CENI, c'est lui-même qui prend son téléphone, qui appelle le nouveau président élu pour le féliciter, et il sort un communiqué pour appeler ses partisans au calme, et surtout il a félicité également l'équivalent de leur CENI au Libéria.
Non, George Weah n'est pas le premier président qui organise une élection en Afrique et la perd. Il n'est pas le premier. Laurent Gbagbo a perdu les élections, Nicéphore Sogla a perdu les élections, beaucoup de présidents ont perdu les élections et sont partis. Comme nous parlons de l'Afrique, en France, François Hollande a perdu l'élection après un mandat, il est parti aussi. George Weah en partie.
Mais c'est les conditions
dans les conditions.
Oui. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, et surtout les secousses qui étaient produites
chaque,
dans le pays.
Chaque pays est unique en son genre. Les réalités d'un pays, des pays varient l'un à l'autre. Le Libéria n'a pas les mêmes réalités que le Bénin, ni le Togo, ni le Ghana, etc. Vous voyez, c'est un footballeur. Moi, je ne voyais pas en lui quelqu'un qui a l'ambition de faire l'éternité au pouvoir. Et n'oubliez pas aussi, quand on est à un poste, même vous, ça, ce qui êtes le commissaire général pour cette émission, à un moment donné, vous sentirez vos forces limitées, vous sentirez vos capacités intellectuelles, physiques limitées, et vous appellerez quelqu'un à venir à votre secours. C'est comme ça. Il se peut. George Weah n'est pas, même quand il était arrivé au pouvoir, visiblement, ce n'était pas quelqu'un qui devrait faire un forcing pour s'éterniser au pouvoir. Mais aujourd'hui, il devrait, comme vous avez l'habitude de le dire, sortir par, moi je ne dis pas la grande porte, mais la très bonne porte. Il est sorti aujourd'hui par la très bonne porte. Quel que soit ce qui l'a caractérisé durant son mandat, je pense que c'est gérable, c'est réglable diplomatiquement. Ils vont gérer, même s'il a des casseroles qu'il aurait traînées, c'est gérable. Mais quand les gens, après avoir perdu des élections, résistent, ils prennent des dispositions, comme Didier l'a dit, et ils créent quoi?
Le Rotogoué.
Voilà, c'est tout ça, c'est mais ça laisse beaucoup de choses. Ça laisse beaucoup de choses et c'est à la perte de la nation, parce que lorsque ça chauffe, c'est des dépenses par ici, c'est de la diplomatie par là, vous faites venir tel négociateur, tout ça là, ça ne sert à rien. Vivement qu'il serve de leçon. Mais je voudrais dire un mot à propos de l'élection au Madagascar. Mm-hmm. Je pense bien que c'est là qu'il faut s'inquiéter un peu. Parce que le président actuel, non seulement il est critiqué par rapport au processus, à la façon dont il a organisé l'élection, mais aussi à sa double nationalité, oui, malgache et française. Donc jusqu'ici, les opposants qui ont boycotté l'élection, ils n'ont pas boycotté parce qu'ils ont la volonté ou l'ambition de boycotter. Ils ont boycotté tout simplement parce qu'ils ont lutté, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on invalide la candidature du président actuel, parce que le problème de sa double nationalité n'est pas encore réglé. Mais ça n'a pas été fait. Donc ce présentateur-là est resté comme ça jusqu'à ce que le forcing ne s'efface. Alors aujourd'hui, si à la proclamation des résultats, il sort gagnant. Vous voyez ce qui peut arriver dans ce pays, dans cette île-là. Donc c'est là que ça peut créer.
C'est vrai que quand on a découvert au lendemain que André Rajoelina était devenu citoyen français, alors que lui-même n'avait pas le courage de le déclarer à ses concitoyens, ça a fait tic dans la tête de certains. Ses opposants ont demandé à ce que sa candidature soit invalidée. Imaginons que nous découvrons que notre président est devenu citoyen de Chili. Alors finalement, on se demande, et c'est notre président, en cas de situation de tension entre le Togo et le Chili, il opterait pour quel pays?
Non, mais ça, moi, je ne crois pas que ça soit un vrai débat, un débat sérieux. Vous savez, tous les politiques africains, qu'ils soient opposants, qu'ils soient chefs d'État, ils ont toujours une autre nationalité. Vous voulez qu'on cite les citoyens togolo-français?
Bien sûr.
Vous voulez qu'on se mette à les citer?
Oui,
ici,
oui, il faut citer
combien ils sont dans le gouvernement, combien ils sont dans à des postes de responsabilité. C'est pas ça le problème, à mon avis. Si c'est pour ça que des gens boycottent des élections, ils auraient boycotté des élections.
Mais il n'y a pas que ça. Il y a des conditions dans lesquelles les membres de leur comment été nommé, comment il travaille, comment l'intérim même.
Nous connaissons la situation au niveau du Madagascar. Nous savons que le président sortant a caporalisé le système électoral pour se faire réélire. Ça, si c'est pour ça que les opposants boycottent, d'accord. Mais pour la question de nationalité, moi j'ai trouvé ça un peu enfantin.
Si nous commettons une
inflation,
juger selon quelle juridiction, si nous commettons une infraction.
Là, c'est un débat. C'est un débat. C'est un débat, chacun peut y aller, mais quelque part, même dans l'intelligence artificielle, on parle d'éthique. Même dans l'intelligence artificielle, où à principe, c'est nos limites, on parle d'éthique. Alors, est-ce qu'il ne devrait pas avoir un peu d'éthique seulement en politique? C'est une question qui flotte en l'air. Ali Niaou, Libéria, Argentine, Madagascar, RD, Congo, ou pourquoi pas le Togo, en deux minutes.
Allons encore au Libéria.
Vas-y.
Au Libéria, pour dire que ce que George Weah a fait, c'est une nouvelle école qu'il est en train d'insouffler sur l'Afrique. Parce que pour moi, d'ailleurs, les gens se plaisent à le dire, que je ne peux pas organiser une élection et la perdre. Les gens le disent en Afrique. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Les gens le disent. Vous avez vu le Madagascar. Mais ça veut dire que nous allons à une victoire du président sortant. Il va revenir.
Il est déjà en tête.
C'est pour cette raison. C'est pour cette raison que toutes les dispositions ont été prises de façon conséquente pour qu'il vienne. Et si George Weah était dans cette logique de la quasi-totalité, de la mentalité de nous, Africains, il aurait mis aussi des dispositions pour passer. Ça veut dire que c'est un président qui a voulu laisser le peuple faire son choix. Et qui a voulu mettre tous les moyens nécessaires pour que la volonté du peuple réjaillisse. Récemment au Gabon, vous avez vu les mea culpa des gens qui sont venus reconnaître avoir fait mal à leur pays pendant des siècles.
Et non, donc, des années quand même.
Mais disons-nous, je parle des. Donc ça veut dire quelque part que George Weah a fait quelque chose de spécial. Si on se plaît à dire qu'il veut sortir par l'appétit ou la gamme, c'est faux. Il aurait pu aussi se maintenir et sortir par la porte par laquelle tout le monde sort. Ça veut dire qu'il a voulu faire une exception. Et cette exception, elle est positive. Vous avez dit, Gigi a dit, que sur les réseaux sociaux, partout, les gens parlent de George Weah. C'est à côté de lui. Yaya Jamé.
En Gambie.
En Gambie. Il fut une époque où il a voulu, au début, faire le fair play. Mais les gens sont venus lui dire, tu es bête. Toi, tu es assis et quelqu'un vient. Et puis, il a changé de comportement et on a vu ce que ça a donné. Donc, félicitations à George Weah. Et les pays où il va avoir les élections, il faut que si les gens commencent par avoir confiance en tout ce qu'ils font, si les gens veulent que les choses soient telles que ça doit être, ça peut se passer si l'élection est correcte et quelqu'un reconnaît qu'on l'a gagné et qu'il puisse emboîter les pas à George Weah. Revenons au Togo. Nous allons parler de la CENI où l'EUF est venu et a analysé le fichier et a conclu que le fichier est fiable. Et donc, avec ce fichier, on peut aller aux élections. Maintenant, vous avez parlé du mécontentement ou des uns et des autres qui se disent que ils n'ont pas foi en ce que...
Parce qu'ils n'ont pas été associés à la démarche qui a consisté à l'audit du fichier par l'OIF.
Bon, je ne sais pas comment ça
ils
se passe.
Ils disent même n'être pas informés de la présence de l'OIF au Togo.
L'OIF, là, je ne crois pas que c'est une organisation complaisante qui serait venue s'amuser.
Je pense que c'est plutôt la démarche de la CENI à l'endroit de l'OIF avant leur arrivée, leur mission d'audit.
Bon, moi, pour moi, si on parle d'une institution comme l'OIF, je me dis que c'est quelque chose de crédible et qu'ils n'ont pas à venir faire de la fantaisie au Togo. Même si les gens ne sont pas d'accord de la démarche, ils peuvent aussi proposer qu'on essaye de voir pour que tout le monde se mette d'accord sur ce fichier avant qu'on puisse aller aux élections.
Merci. Il est midi passé d'une minute. Vous nous avez écouté. Hein, nous avons évoqué la journée du 20 novembre, la journée mondiale de l'enfance, avec ce thème « À chaque enfant, tous ses droits ». Et nous avons ouvert une grande page de l'intelligence artificielle, notamment cette semaine, qui va s'organiser dans notre pays courant mars 2024. On a commencé à voir tous les avantages que nous offre cette intelligence artificielle et comment nous devons nous préparer pour ne pas rater le rendez-vous. Puis on a continué avec une page de coopération, développement avec les missions du chef de l'État et de la chef du gouvernement. Puis on a terminé avec ce petit tour d'élection qui nous a fait voler de l'Argentine au Togo en passant par le Libéria, la RD Congo et Madagascar. Nous allons souffler un peu le temps que vous prépariez à composer le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. Vous co-animez avec nous par vos questions ou bien vos commentaires.
13.5 Canal FM.
Eh bien, c'est parti. Notre invité, Jérôme Ribeiro, et les trois confrères sont à mes côtés pour écouter vos commentaires, voire répondre à vos questions. Premier auditeur aujourd'hui, bonjour.
Bonjour, monsieur Stas.
Oui.
Oui, c'est Papa Fadinet.
Depuis Amoutievé,
voilà.
Nous vous écoutons.
Je salue vraiment ce que Georges Weah a fait.
Mm-hmm.
Si tous les pays d'Afrique peuvent faire ça, donc, il y aura de la paix en Afrique.
Mm-hmm.
Si tu reconnais ta défaite, c'est très bon. Bonne journée.
Merci beaucoup, Papa Sodjiné. Que tous les pays africains, nous sommes, c'est quoi, 54, 55. Commençons à faire comme Georges Weah, aussi bien dans l'organisation où on laisse toute la liberté à la commission électorale, et puis dans le fair play, on reconnaît sa victoire, ou bien on jouit de sa victoire. Le suivant, bonjour.
Oui, bonjour, grand frère Sartitao.
Oui.
Benoît Dagouin.
Benoît Dagouin, nous vous écoutons.
Ok. Moi, je voulais. Votre confrère vient de dire que François Hollande a organisé les élections. Il a perdu. Non, c'est pas François Hollande, c'est Nicolas Sarkozy.
Oui.
Même ici, au Bénin, monsieur Yahi Boni, président Yahi Boni, a organisé une élection avec celui-là. Et il a perdu. Au Togo.
Yahi Boni, il n'avait pas perdu lui-même élection, mais c'est son dauphin qu'il présentait à la fin du deuxième mandat qui n'avait pas été élu.
Oui.
Lionel Zinsou, voilà.
Oui, voilà, merci beaucoup. Mais au Togo, c'est comme si. Non, pardon, c'est comme si les élections sont devenues les points de péage pour nous. J'ai perdu le pour la vision du chef de l'État. Ce que vient de faire la CENI, moi je trouve que c'est pas bon. C'est pas bon. En 2020, on a fait 3 200 000 pour aller aux élections. Et les 70% ont voté pour le chef de l'État. Aujourd'hui, nous avons 4 400 000 pour aller aux élections. Moi je pense que c'est un calcul, hein, c'est un calcul. Appeler l'OIS en catimini.
Si. On peut faire ces calculs, mais vous prêtez, vous estimez que nous devrions commencer à faire comme le Libéria, dans toute la transparence, dans l'organisation des élections. Merci, Benoît Dagouet. Le suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Nyamavo.
Oui, nous écoutons, monsieur Nyamavo.
Oui, Georges Weah, carton vert à lui.
Ok.
C'est un joueur, il est professionnel, il a joué à l'international et il sait faire ses plays. Chez nous, précisément, vous savez, c'est comme les jeux de quartier où quand les grands frères savent que vous les dominez, ils mettent 5 minutes de jeu de djougou. Ils vous piétinent sous les oreilles, les orteils plutôt. Arrivé dans les poteaux, lui-même, il tire dans les champs de maïs, il te dit d'aller chercher le ballon. Sinon, tu ne joues plus. Donc, c'est ce qui se joue sur nous ici, quoi. Vous voyez, la dernière fois, l'EIF est venu, tout le monde acclame, on ne sait même pas comment il est venu. L'EIF que moi, je prends comme une cour constitutionnelle internationale, hein, que pilotée par la France. Donc, si c'est bon à l'EIF, donc c'est bon pour les Togolais. Et puis, le train, la locomotive va démarrer.
Hein? Merci beaucoup. Le Libéria intéresse, mais l'intelligence artificielle doit nous intéresser beaucoup plus parce que c'est nous-mêmes aujourd'hui et demain. Sans oublier quand même la journée mondiale de l'enfance. Hein, et nous avons tous des enfants autour de nous et puis d'autres sujets aussi. C'est pour vous inviter à diversifier vos commentaires pour que nous sortions beaucoup plus riches de l'émission. Le suivant, bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui.
C'est Abdoul.
Abdoul, oui.
Nous, on ne va pas laisser le Libéria. Georges Weah et ses ministres, aucun d'eux n'a jeté les journalistes en prison. Félicitations à Ferdinand Ité d'abord. Georges Weah, c'est un homme de Dieu. C'est des gens comme ça qu'on va appeler homme de Dieu. Être homme de Dieu, c'est dans les actes, c'est pas la bouche. C'est pas de me faire appeler homme de Dieu. Il faut travailler. C'est pas prendre le micro, prêcher, mentir aux gens que tu es homme de Dieu, mais tu ne fais pas de bons actes. Donc, Georges Weah, homme de Dieu, bravo à lui.
Merci beaucoup, Abdoul. Je rappelle que nous avons débattu de 4 sujets aujourd'hui. Le suivant, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui.
Johannes.
Comme là, Johannes.
Oui.
Ok.
Concernant l'intelligence artificielle.
Mm-hmm. Merci comme là pour ça au moins.
Bon, l'intelligence artificielle est censée aider l'humain, mais aujourd'hui, on parle de plus en plus de ChatGPT. Est-ce que l'intelligence artificielle n'arrive pas à un niveau où l'homme, l'humain ne pourra plus contrôler? Et est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas dans ce domaine de ChatGPT rendre l'humain plus paresseux intellectuellement?
Mm-hmm.
Et mon deuxième point, c'est pour dire que nous sommes fatigués des Nations Unies, de notre cher ami Robert Jussé. Nous sommes fatigués à l'ONU là. C'est pour après nous ramener l'OIF pour auditer notre fichier électoral. C'est ça, nous sommes fatigués. Merci et bonne journée.
Je vous en prie. Dans un moment, Jérôme va répondre à votre préoccupation sur l'intelligence artificielle. Le suivant, bonjour. Il y a interférence. C'est à quel niveau il y a interférence? Comme là, coupez votre micro pour laisser la place à l'auditeur suivant. Eh bien, en attendant que cela se règle, Jérôme, tu as écouté la préoccupation de notre ami. D'abord, différence entre intelligence artificielle et ChatGPT.
Utilise de l'intelligence artificielle, c'est de l'IA générative textuelle, c'est-à-dire qu'on converse avec, et elle utilise de l'intelligence artificielle pour analyser la question et pour pouvoir répondre. Mm-hmm. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher dans les bases de données, les petits hommes que je disais derrière, qui vont chercher dans les livres les informations, mm-hmm. pour retranscrire textuellement la demande en réponse. Mmh. Donc, avec des syntaxes dans toutes les langues, etc. Donc, ChatGPT est un outil qui utilise de l'intelligence artificielle. Mmh. Donc, déjà, il n'y a pas de différence.
Il n'y a pas de différence.
C'est un outil différent.
Ensuite, est-ce que l'intelligence artificielle ne risque pas de nous rendre plus paresseux?
Alors, ça, après, ça va dépendre de chacun, bien sûr. Est-ce qu'on laisse la voiture autonome faire en sorte qu'on ne sait plus conduire? Est-ce que demain, on n'aura pas... Moi, j'ai plaisir à conduire. Mais quelquefois, je suis fatigué, je mets le régulateur automatique dans ma voiture, il y a la distance qui se règle automatiquement, etc., en fonction du véhicule devant, je dors pas. mais je suis toujours là.
Et tu fais ça ici à Lomé au Togo?
Non, je fais pas à Lomé au Togo, okay. Je fais ça en France.
Merci beaucoup. L'auditeur suivant, bonjour. Allô? Nous avons un souci sur nos lignes. Allô, l'ami en ligne? Ok, en attendant que cela se règle. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour.
Ah, c'est Vincent de Pogan.
Vincent de Pogan.
Oui.
Eh bien, vous êtes le bienvenu.
Ok. Monsieur Sass.
Oui.
Ce qui me dérange un peu là, si notre cher président là, s'il a la volonté de céder le pouvoir un jour à quelqu'un là, cela se prépare aujourd'hui. C'est que la francophonie là, la façon dont ils ont fait venir la francophonie là, c'est ça qui me paraît bizarre quoi. Que pour moi là, je ne crois pas qu'il y aura un changement un jour au Togo.
Bon, si vous concluiez avant même l'introduction, je ne sais pas ce que nous on peut dire. Donc quand même que nous devons quand même respecter la séparation des tâches. Le président de la République, il est dans ses attributions de chef d'État. Pour les élections, c'est la CENI. Et je rappelle que nous avons une commission électorale nationale indépendante. C'est à la CENI de s'assumer pour organiser des élections hein, qui ont notre confiance, comme nous sommes en train d'en parler au Libéria. Allô? Bizarrement, c'est aujourd'hui que nous parlons d'intelligence artificielle que nous avons des soucis dans avec nos lignes. Oui, bonjour l'ami.
Oui, allô, oui, bonjour Saf, comment ça va
Didier? Ah, Didier.
Oui.
Nous vous écoutons, bon. Didier.
Moi, je voulais parler des 400 millions, là, monsieur Tanyao.
Bon, on a pas débattu de ça aujourd'hui, s'il te plaît, Didier.
Ok. Donc, je voulais faire une réflexion, quoi. Mais si vous n'en avez pas discuté, c'est
okay.
Pas la peine, alors.
Ok, vas-y.
Ok. Donc, je voulais vous dire, mais vous-même, vous les journalistes, là, vous avez des armes puissantes que vous ne déployez pas. Mm-hmm. Regardez, par exemple, moi, les juges, là, qui condamnent. Au fait, M. Adede, il peut porter plainte, hein, mais celui qui applique ces jugements-là, c'est eux qui sont des fautifs. C'est eux, il faut écrire leur nom, le juge qui a condamné, qui a mis les gens en prison. Écrivez, publiez leur nom. Tout, dans ce moment, demain, on se retrouve avec ces juges, on boit, on mange, on fait tout même. On ne sait pas que c'est eux-mêmes qui sont les fausseurs de la démocratie. Écrivez leur nom, dénoncez-les. C'est ce que je voulais, ma réflexion.
Non, c'est une bonne réflexion. Dans cette affaire, c'est vrai que tout le monde tire à boulet rouge sur le ministre Adedie, mais Adedie n'a fait que porter plainte.
Oui.
Maintenant, l'affaire a été instruite à la BRI. Est-ce que nous sommes satisfaits de ce que les policiers ont fait à la BRI?
Ils n'ont pas de problème.
Maintenant, le procureur de la République qui a
inculqué.
Oui, Didier, je suis d'accord avec. Il faut que nous citions les responsabilités. Adedie a porté plainte. Les policiers ont écouté leurs confrères. Ensuite, le procureur de la République les a inculpés. Et le juge d'instruction a décerné un mandat de dépôt.
Voilà.
Est-ce que chacun, sur toute la ligne là, est-ce que chacun a fait son travail en son âme et conscience? La question reste posée.
J'ai pensé, je suis en train de penser depuis, je dis que, mais il y a un problème qui ne va pas. Parce que même le UNI, mais ils ont des règlements de compte entre eux, si une affaire tombe dans les mains des journalistes, ils vont écrire. Mais le juge qui fait le boulot là, vous voyez, le bon juge, c'est pas celui qui a ce diplôme, cette truc, agrégation, c'est celui qui sait résister aux pressions.
Didier,
c'est ça qu'on appelle
c'est
bon
intéressant.
Juge.
Hein.
Écrivez leur nom.
Chacun devra répondre demain de ce qu'il a fait.
Leur nom, là, que c'est le juge là qui a mis tel journaliste en prison. Là, nous allons les connaître, quand on voulait raconter les supports, les restaurants, nous allons les dénoncer, nous allons les doigter. Là, ils vont
attention, Didier, ne versons pas quand même à exposer les serviteurs de l'État à la vindicte populaire. S'il vous plaît.
Si un juge, il assume ce qu'il a fait.
Oui.
Soit il est content d'assumer, soit il n'assume pas.
Oui, je vous comprends, mais il faut y aller pour ne pas exposer certaines personnalités à la colère de la rue. Merci, l'auditeur suivant, bonjour. Allô?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, je vous remercie de m'avoir donné l'antenne. Je m'appelle, je suis docteur Connie Nagbe. Je suis intéressé par le sujet d'intelligence artificielle. Donc, tout d'abord, je voulais remercier le monsieur qui était sur vos antennes.
Jérôme Ribeiro.
Expliquer les différentes applications qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Déjà, je vous appelle depuis la France. Du coup, en fait, il a dit que c'est Dr Mourou Amouzou. qui est le seul docteur en intelligence artificielle. C'est faux, je suis docteur en intelligence artificielle aussi.
Ah, bravo, nous avons déjà deux docteurs. Merci.
Oui, donc j'étais à Lomé dans le mois de juin pour donner un cours de mission d'intelligence artificielle aux étudiants de l'école polytechnique de Lomé.
Mm-hmm.
Et je voulais profiter pour remercier et féliciter les dirigeants de l'université de Lomé d'avoir ouvert les filières d'intelligence artificielle. Parce que j'ai vu le niveau des étudiants de l'université de Lomé, c'est très, très top. C'est comme le niveau des étudiants en France.
Mm-hmm.
Et du coup, effectivement, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'applications qui vont venir dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'environnement, dans l'éducation, dans beaucoup de secteurs.
Oui.
Donc, mais je ne trouve pas, ce qui m'a un peu choqué, c'est, je ne pense pas qu'on peut avoir un seul docteur dans un pays. Et aussi, donc, c'est juste pour informer le public qu'à l'Université de Lomé, on a déjà un master en intelligence artificielle.
Mm-hmm. Merci beaucoup, docteur Nagbe. Allô, docteur. Allô, docteur Nagbe. Et s'il vous plaît, je vous prie de laisser vos coordonnées hors micro auprès du technicien, s'il vous plaît.
D'accord, ok, ça marche.
Ok, merci pour la confiance. Eh bien, Jérôme, vous avez écouté, nous sommes partis de cette émission avec un docteur. Maintenant, nous avons deux. En attendant le troisième, le quatrième, voire même le centième en intelligence artificielle.
Mais déjà, je salue l'initiative. Après, c'est dommage qu'il soit en France, puisque le Togo a besoin de lui. Et donc, on serait très heureux qu'il revienne au Togo.
Après, il dit qu'il est venu effectuer une mission d'enseignement.
Oui, encore, mais il ne travaille pas au Togo. Après, pour le master qui est à l'école, le souci que nous avons en Afrique, quand on a recensé tous les diplômes d'ingénieurs en IA, nous, on travaille avec des universités comme Berkeley en Californie, l'université Paris-Saclay, l'université Mohamed Ier, l'université polytechnique Mohamed V à Rabat. Les diplômes ne sont pas reconnus. Donc, vous allez passer votre master qui ne va être pas reconnu en Europe. C'est la problématique des diplômes africains. Donc, nous arrivons avec une reconnaissance des diplômes internationaux. C'est super qu'il y ait déjà des initiatives. Mais il faut compléter avec d'autres modules pour que ces diplômes soient reconnus à l'international.
Merci, le sujet intéresse. Il y a un auditeur qui insiste, nous le prenons, le tout dernier auditeur, bonjour.
Bonjour, le plateau.
Oui.
C'est Armand.
Oui, allez-y.
Oui, j'aimerais revenir un peu sur l'intelligence artificielle toujours.
Mm-hmm.
Est-ce que beaucoup, j'ai lu un article l'autre fois, il parlait de que beaucoup de métiers risquent de s'estomper avec l'intelligence artificielle.
Oui.
Et que certains artistes au niveau du cinéma et audiovisuel sont un peu inquiets aussi de l'authenticité.
Autrement dit, que l'ordinateur vienne prendre le travail des humains et que cela crée le chômage, n'est-ce pas?
Voilà.
Nous en avons parlé, mais je vais demander à Jérôme d'y revenir rapidement dans sa conclusion. Jérôme?
On ne fera plus les mêmes métiers que de la même façon. On va être formé continuellement. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ce film Les Figures de l'Ombre, où les femmes noires calculatrices de la NASA calculaient les trajectoires des fusées. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles devaient être remplacées par un supercalculateur d'IBM. Elles étaient une cinquantaine. La chef d'équipe a dompté la machine. Lorsque vous maîtrisez l'outil, l'outil a besoin d'un humain derrière. Donc, il faut maîtriser l'outil. C'est pour ça que nous venons avec nos formations. C'est pas que pour faire des ingénieurs. C'est aussi pour vous expliquer comment fonctionne l'intelligence artificielle, pour vous en servir. La voiture, on pensait qu'elle allait mettre au chômage. Qui n'utilisait pas de voiture aujourd'hui? C'est devenu un outil au service de l'humanité. Imaginez le temps qu'on gagne d'aller d'un point A à un point B par rapport à ce qu'on faisait à cheval. Donc, l'IA, c'est la même chose. C'est un outil. C'est comme un couteau. On s'en sert pour cuisiner ou pour tuer. Donc, si vous maîtrisez, si on vous fait passer le code et si on vous fait passer le permis, dans ce cas-là, vous ne perdrez pas votre travail, puisque vous maîtriserez cet outil. Il sera à votre disposition pour être meilleur.
Merci, merci beaucoup, Jérôme Ribeiro. Je rappelle qu'il est le président de Human Eye. Il est encore tu es encore chez nous au Togo pendant quelques jours, quelques semaines?
Non, ça fait 10 jours que je suis là, je repars ce soir. Mais je reviendrai bientôt.
Tu demandais à docteur que, comme il avait devenu travailler au Togo, toi-même, il faudrait commencer par...
Alors, attention, moi, c'est le projet que nous avons, c'est grâce au docteur Malik Maurice Mouzou, nous apportons, moi je travaille dans 37 pays d'Afrique aujourd'hui.
Ah oui.
D'accord. Donc, on axe sur le Togo parce qu'il y a une volonté forte. Et ce que disait votre collègue tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut de la volonté? Donc le chef de l'État a cette volonté-là aussi. Nous allons mettre les moyens et je vais venir beaucoup plus souvent par rapport aux autres pays.
Eh bien, tu es le bienvenu au studio Merci. De Canal FM à chaque fois que tu arrives au studio.
C'est un plaisir.
J'ai été accordé de temps en temps, je vais demander ta position de par le, de par la terre. Merci beaucoup. Eh bien, tour de table pour conclure. Kakbala, Uriel.
Est-ce qu'il faut parler d'une conclusion Je voulais attirer l'attention des patrons d'organisations de presse. Voilà. Et attirer leur attention sur le fait qu'aujourd'hui, nous avons plus besoin de la formation. Et surtout mettre l'accent sur ce que nous ne maîtrisons pas et qui se révèle obstacle ou source de conflit pour nous avec les autres. Il faudrait que par rapport au nouveau code de la presse, que nous puissions le relire chaque jour et ne plus tomber dans l'erreur. Parce que j'ai constaté que lorsqu'un journaliste rentre en conflit avec la loi, c'est-à-dire quelqu'un se plaint puisque le journaliste a écrit tel, nous, les patrons attendent que ça aille loin avant de commencer par faire le couloir. Non, il vaut mieux enseigner. Continuez par enseigner que c'est ça que nous ne devons pas faire. Si vous le faites, vous irez ici. Si vous le faites, vous allez tomber sous le coup de la loi. Ne pas laisser
un peu qu'on tombe. Pluriel, oui. À notre âme et conscience, est-ce que nous tous, journalistes du Togo, est-ce que nous avons le code de la presse de la communication, dernière version? 1. 2. Si nous l'avons, est-ce que nous le lisons à notre niveau individuellement? 3. Est-ce que nous partageons les articles du code de la presse entre nous? Ces trois questions, vous me ferez vos réponses après. Je reviens ici au studio pour la conclusion, Didier.
Non, mais qu'est-ce qu'il faut conclure pour l'intelligence artificielle? Il faut, par exemple, on ne peut pas... J'étais à la formation de vendredi dernier aussi et je disais à quelques amis que c'était une opportunité pour notre pays, mais on ne peut pas faire de l'intelligence artificielle sans une bonne connexion Internet et tout ce qui va avec. Et donc, les autorités, c'est déjà très bien que les autorités disent qu'elles veulent faire du Togo un hub technologique
et logistique.
Mais bon, voilà, si on veut faire du hub technologique et logistique, il faut quand même suivre le mouvement en démocratisant l'Internet dans le pays et en travaillant pour que l'Internet soit un peu partout. Et si l'Internet doit être un peu partout, il faut déjà que l'électricité soit un peu partout. Il faut déjà que d'autres éléments soient réunis pour véritablement faire du Togo ce hub-là. On ne va pas le dire dans la bouche seulement. Il faut vraiment faire du travail derrière pour que ça soit une réalité.
1. La volonté politique, nous l'avons. 2. La connexion Internet, est-ce que nous l'avons?
Nous l'avons
3,
pas encore.
L'électricité, est-ce que nous l'avons partout?
Nous ne l'avons pas encore.
3. Les autres facteurs que nous allons évoquer au fur et à mesure. Arim Yonjanyaou.
Bon, moi je reviens sur le code... de la presse, parce qu'il y a Didier qui a évoqué la question de nos confrères qui sont arrêtés, enfermés, et puis ça parle toujours du ministre Adedie. Je voulais dire qu'il y a deux choses. Ou bien les patrons s'organisent avec le ministre de la communication, le ministre des droits de l'homme, et puis la HAC, et les députés à l'Assemblée ont fait diligence et on revoit notre code. Ou on ne le fait pas et on travaille, comme Uriel l'a dit, à nous former davantage sur le contenu du code que nous avons aujourd'hui, qui nous interdit d'aller presser sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je ne suis plus aux affaires, je sais que nous avons commencé.
Je ne suis plus aux affaires au CONAP.
Au CONAP, à la tête du CONAP. On a commencé par négocier à ce qu'on revoie ce code. Mais si ça n'a pas été fait, attendons-nous à ne pas aller presser sur les réseaux sociaux, sinon on aura plusieurs ADG dans ce pays. C'est parce que le cas tombe sur ADG qu'on le dit. Ça aurait été un autre qu'il se servira de ce code pour plomber nos amis. Voilà les dispositions que je crois qu'on peut prendre. Mais en attendant, on demande la clémence du ministre ADG pour que nos confrères soient libérés.
Merci. Mais la question demeure, le ministre a porté plainte. Mais les officiers de police judiciaire qui ont écouté leurs confrères, est-ce qu'ils ont fait leur travail en bonne et due forme? Le procureur de la République qui les a inculpés, est-ce qu'il a fait son travail comme il se doit?
le juge d'instruction qui a pris le mandat de dépôt, est-ce qu'il a bien fait? Toutes ces questions demeurent, d'autant plus que tous ceux qui sont sur la chaîne peuvent se retrouver dans la position de Loïc, Lawson et Danani Sosou demain.
C'est peut-être là où il faut aller puiser les
termes. Rendez-vous demain mardi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.